Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
À l'occasion de la semaine Canada-Caraïbes qui se déroule en ce moment, nous recevons Manik Siar-Titeka, psychologue, entrepreneur culturel et fondatrice de la maison d'édition audio Une voix, une histoire. Bonjour Manik.
Bonjour Hélène, bonjour à tous nos auditeurs.
Merci beaucoup d'être avec nous en cette belle journée, j'allais dire belle journée. Il n'y a pas de soleil, mais vous, vous êtes arrivée avec votre blouse fleurie magnifique.
Merci beaucoup.
Et donc, vous êtes au Canada dans le cadre de la semaine Canada-Caraïbes. Ça représente quoi pour vous cet événement et quels sont les objectifs de votre visite?
Alors, c'est vrai que cette semaine Canada-Caraïbes, elle a été mise en place par Audace au féminin, hein, via Dominique Rowe, et en Guadeloupe par la Fédération des toutes petites entreprises, la FTPE, et Myriam Rambanaï-Singh. C'était la volonté de, qu'on puisse construire un corridor entre le Canada et la Guadeloupe, sachant que nous sommes francophones,
oui.
À 5 heures de route, de vol, et surtout qu'il n'y a pas de décalage horaire. Donc, c'était vraiment la volonté d'avoir une perspective pour nos entrepreneurs guadeloupéens de façon générale. Et puis, pour moi, de rencontrer d'autres acteurs culturels, donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui les ICC, hein, l'industrie culturelle et créative, et voir dans quelle mesure, effectivement, via cette plateforme de livres audio que j'ai déjà, Une voix et une histoire, cette maison d'édition, comment on peut co-créer autour de cette inclusion, puisque comme j'aime à le dire, le livre doit être accessible à tous.
Oui, alors comment est née cette idée de créer Une voix, une histoire? C'était justement pour rendre le livre accessible à tous,
oui,
et à toutes?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, je suis psychologue. Je rencontre Jocelyne, 60 ans, qui, lors d'une réunion dans un établissement scolaire, vient me voir discrètement et me demande si je peux lui apprendre à lire. Et je lui dis que oui, donc on rentre dans un processus d'apprentissage de la lecture, donc les formulaires administratifs, mais pas le livre. Parce qu'il faut lire un certain nombre de mots à la minute pour entrer dans la compréhension. Mmh. Et là, je me dis, je ne peux pas fermer la porte et la laisser comme ça. Enfin, le livre, c'est l'imaginaire. Le livre, c'est le livre arbitre. Et je me dis que je vais faire une recherche, je vais regarder si nos littératures existent en audio. Donc oui, elles existent, mais au format CD. C'est-à-dire que nous n'avons jamais investi le format numérique. Et donc, le format CD, on sait bien que les supports disparaissent. Et de là naît donc Une voix, une histoire, se dire que oui, le livre...
On est en quelle année?
On est en 2016.
2016.
Ah oui,
vous
date.
Célébrez votre 10e anniversaire cette
Alors,
année?
Alors, 2016 officieusement, 2020 officiellement.
Okay.
2016, ça a été vraiment toute la partie technique, trouver des personnes capables, puisqu'on est dans l'innovation, en tout cas pour notre territoire, on est dans l'innovation complète. Donc, trouver quelqu'un capable de pouvoir créer une plateforme, enregistrer les livres audio, avoir un studio d'enregistrement. Donc, ça demande beaucoup de temps. Et en 2020, officiellement, naît Une voix, une histoire.
Alors, derrière chaque livre audio, il y a un vrai travail de production, vous venez de l'évoquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques phrases les étapes principales du choix d'un ouvrage jusqu'à sa mise à disposition pour le public?
Alors, c'est vrai que lorsqu'on a commencé, on s'est tourné directement vers les maisons d'édition, qui éditaient déjà des auteurs de la Caraïbe et de la diaspora. Donc, une sélection conjointe avec l'éditeur papier et moi-même. Mm-hmm. Après, par la suite, c'est le casting voix, parce que c'est la volonté de se dire, qui on met derrière? Et une double volonté, pas forcément trouver des professionnels du livre pour garder l'authenticité. C'est vrai que le professionnel de la voix, a tendance à être dans une case très stéréotypée. Oui, bonjour, voilà. On ne reconnaît plus nos accents. Et moi, ce que je voulais, c'est que vraiment, on puisse reconnaître nos accents parce que ce sont nos jeunes qui écoutent. Et s'ils ne reconnaissent pas, ils ne vont pas y adhérer. Donc, vraiment, trouver des amateurs, mais qui aiment lire et qui savent lire. Ensuite, donc, cette partie enregistrement, production pure et brute. Et après, en post-prod, à savoir donc, si on rajoute du bruitage, alors surtout sur la littérature jeunesse, puisqu'on n'a plus l'image. Donc, il faut pouvoir raccrocher l'enfant à un contexte grâce au bruitage. Et puis après, sur les autres œuvres, un peu moins de bruitage, puisque là, on est sur la littérature adulte.
Donc, vous adressez autant aux jeunes, aux enfants
qu'aux adultes. Tout à fait. On fait vraiment tous les genres littéraires, jeunesse, romans, nouvelles, essais, pièces de théâtre, poésie. On fait vraiment... Et de la bande dessinée depuis peu.
Ça pique notre curiosité. On aimerait bien entendre ce que ça donne. Là. Les auteurs qui font partie de votre catalogue, comment vous les choisissez?
Alors aujourd'hui, c'est eux qui viennent vers nous. Aujourd'hui, on a vraiment des premiers manuscrits où les auteurs n'ont jamais édité en livre papier. On a un comité de lecture composé de 6 personnes, dont 2 journalistes. La volonté aussi d'avoir cet esprit critique de nos littératures pour qu'on puisse offrir quand même de la qualité. Et après ce comité de lecture, réunion d'équipe, et on décide si oui ou non le livre sera mis en audio tel quel ou s'il y a une adaptation, parce que souvent, le livre papier n'est pas toujours... adaptable tout de suite en livre audio.
Ah ouais. Il y a un travail d'adaptation.
Il y a un travail d'adaptation, puisqu'on est sur du discours direct. Par exemple, on ne va pas dire « Oui, il lui a répondu, il lui a dit, etc. » Non, non. On va être, nous, sur un discours direct quand il y aura du dialogue. Et souvent, il faut demander l'autorisation à l'auteur avant de toucher à son texte.
Bien oui. Et habituellement, l'auteur est-il
ils sont très
collaborateur?
Réceptifs. Oui, ils sont ils sont très réceptifs à nos demandes. Oui.
Et au fil des années, justement, vous avez développé plusieurs collaborations. Quels partenariats ont été les plus marquants dans le développement de votre maison d'édition, d'Une voix, une histoire?
Alors, le développement le plus marquant, alors c'est un développement déjà vers l'Afrique de l'Ouest. Nous y sommes régulièrement. Nous sommes régulièrement en Côte d'Ivoire, au Salon international du livre d'Abidjan, où nous travaillons à mettre en voie également... les littératures dites africaines, dites noires. Et avec audace, quand Spotify a annoncé qu'ils ouvraient une section livre audio, ils ont sorti un très bel article avec le nom des maisons d'édition principales. Et je leur ai envoyé un mail en leur disant qu'ils m'avaient oublié. Et ils m'ont renvoyé un mail.
Vous avez bien fait?
Oui, ils m'ont renvoyé un mail en me disant oui.
Vous avez une réponse?
J'ai eu une réponse. 2 semaines après, j'ai eu une réponse en me disant qu'ils seraient heureux de pouvoir collaborer avec moi. Parce que notre littérature a cette particularité, nous sommes sur un territoire caribéen qui est universel, qui est déjà international. We can talk English, puedo hablar en español sin tener problema. Nous ne pouvons pas les créoles et on parle français. Donc nous sommes déjà sur une dynamique internationale sur nos territoires.
Vous avez pignon sur rue là?
Oui, aujourd'hui. Oui.
C'est tout?
À Sainte-Anne, en Guadeloupe.
Ah oui. Ouais. On ira vous visiter.
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Justement, vous êtes en discussion, si je peux dire, avec Vues et Voix ici.
Exact.
Vues et Voix qui célèbre ses 50 ans cette année dans le cadre d'une démarche exploratoire. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme association, comme synergie entre votre organisation et notre organisation?
Alors, c'est vrai que j'ai rencontré donc Marjorie Théodore.
Oui,
et,
que vous avez rencontré dans le cadre,
fait, dans
de,
le
cette
cadre
semaine,
de cette semaine.
Canada-Caraïbes.
Oui, et la volonté, en fait, c'est d'être dans de la co-création. On est souvent seul derrière nos bureaux en tant qu'entrepreneur et je me dis que non, c'est à plusieurs qu'il faut construire les routes et ces chemins. Donc vraiment être dans une volonté de co-création, de voir dans quelle mesure les ouvrages aussi du Canada, de la communauté et au-delà, même les autochtones, les voix qu'on n'entend pas, j'aime à dire la voix des sans-voix, les retrouver donc sur cette plateforme et être accessible au plus grand nombre, créer des événements autour du livre audio. Elle m'a invitée déjà pour le 3 décembre.
Marjorie?
Oui. Ouais. Donc revenir et voir comment conjointement on peut mettre en place quelque chose d'encore plus grand et de plus universel.
Mais on souhaite que ça se concrétise, que ça fonctionne. Alors, vous avez appris l'existence de Vues et Voix par Marjorie Théodore, PDG, que vous ne connaissez pas, le Vues et Voix ni Marjorie, là.
Non, pas du tout. C'est-à-dire que j'étais déjà venue au Salon du Livre de Montréal via l'ANEC, donc Frédéric Saint-Julien qui m'y avait invité. Et effectivement, donc, je connaissais déjà des éditeurs comme M. Romney ou Mosaïque Interculturelle, mais je ne savais pas du tout que Vues et Voix existait. Et donc, ça a été une belle surprise, en plus avec une femme.
Oui.
C'est ça qui est intéressant, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat au féminin chez nous est très complexe. Donc, de voir une femme et de pouvoir vous rencontrer également et se dire que c'est possible, je repars vraiment avec la volonté de me dire qu'on va revenir très bientôt.
Oui, mais tant mieux, ça nous fait plaisir, ça va nous faire plaisir de vous accueillir de nouveau. Vous dites que c'est complexe chez vous en Guadeloupe d'être une femme, d'être entrepreneur.
Entrepreneur au féminin, oui, ça va être très complexe. Déjà, le regard du banquier n'est pas le même, que quand on est un homme. Bon, c'est le regard même des institutions publiques. On aura toujours plus de facilité à ouvrir les portes à un homme qu'à une femme. C'est vrai que ça peut être très complexe. Et qu'on découvre qu'ici, en fait, il y a une réalité. Il y a une réalité où justement la femme est mise en avant. Au contraire, elle est incitée à. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. D'où cette volonté vraiment de corridor qui a été menée par la FTPE et de se dire que nous, petites entreprises, comment on arrive à travailler avec vous. Mm-hmm. Et c'est excellent.
Alors, c'est excellent, cette maison d'édition, cette plateforme de livres audio dédiée à la valorisation de la littérature caribéenne et afro-caribéenne. Quand vous allez revenir, on va pouvoir, j'espère, explorer davantage.
Oui, tout à fait.
Et écouter aussi votre travail, les livres qui sont lus. Je rappelle que la maison d'édition s'appelle Une voix, une histoire. Et j'en parlais avec la fondatrice, directrice générale, qui s'appelle Manik Siyar-Titeka. Vous êtes au Québec encore pour combien de jours?
Alors, jusqu'à demain. Repartir demain, puisque je suis sur un film documentaire qui sera diffusé en Guadeloupe. Donc, il faut que je rentre pour
être présente
avec l'équipe. Ah oui, un
autre projet qui vous attend.
Exactement, tout à fait. Et au-delà de la littérature afro-caribéenne, on a aussi de l'indo-caribéen, puisqu'on a aussi une histoire avec l'Inde. Et c'est vrai que j'avais cette volonté vraiment de montrer que cette plateforme, elle ne souffre pas de couleur de peau. C'est vraiment une plateforme faite qui est à l'image de ce que notre société, elle représente.
Merci beaucoup, Manik Siyar-Titeka. Très heureuse de vous avoir rencontrée. Et bonne nouvelle, vous avez dit que vous allez revenir au début décembre.
Oui, je reviens début décembre.
Vous allez nous rapporter du soleil.
Je vous rapporte du soleil et effectivement, les livres audio, qu'on puisse faire de cette expérience immersive d'écoute.
Ce serait formidable.
Avec plaisir.
Ce sera formidable.
Merci. Merci à vous.